Bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Chloé Bidet.
Il est 10h04, merci d'avoir choisi France Bleu La Rochelle. C'est bienvenue chez vous dans les Deux-Charentes. C'est notre rendez-vous quotidien pour découvrir des métiers, des parcours, des passions. Et ce matin, on va parler d'histoire avec notre invité passionné par l'histoire de la gastronomie. Notamment, on va pouvoir explorer tout ça pendant une heure. Bonjour Stéphanie Romégous.
Bonjour Chloé.
Et merci d'être avec nous sur France Bleu La Rochelle. Comment vous en êtes venue à l'histoire à l'origine? Qu'est-ce qui vous a passionné pour devenir historienne?
Eh bien, je pense que c'était tout simplement le patrimoine qui m'entourait, à la fois les églises romanes de chez nous et puis d'autres régions que j'avais traversées étant enfant. J'étais fascinée par les châteaux forts, enfin voilà, toutes ces vieilles pierres. Et puis j'ai eu la curiosité de savoir en fait dater un mur ou une fenêtre, parce que ça m'agaçait de pas savoir de quelle époque c'était. Donc tout simplement par curiosité. Et puis après, quand on met le doigt dedans, on a envie d'en savoir plus, évidemment.
Aujourd'hui, comment pourrait définir votre métier? Vous êtes historienne, guide conférencière, vous faites des visites costumées aussi. C'est très large, la panoplie, finalement.
Oui, alors moi je dis que je suis animatrice historique. Voilà, comme ça parle un peu plus peut-être, parce que guide conférencière, c'est vraiment dans une certaine catégorie. Si je mets juste animation historique, bon, bah, c'est un peu... on ne sait pas trop ce que c'est. Alors c'est vrai que je fais en plus maintenant de la préhistoire jusqu'à la guerre 39-45. Donc c'est assez large comme vision de l'histoire.
Et à quoi ressemblent vos journées du coup? Il y a des visites de...
Alors, tout dépend de la saison. C'est vrai que là en ce moment c'est la préparation de l'été. Alors l'été c'est le gros marathon, hein, c'est un peu sportif, parce que là ce sera 24 heures sur 24, tous les jours, matin, après-midi, soir. Il y aura des animations tout le temps, en costume, un peu partout en Charente-Maritime, parfois en duo aussi avec mon collègue Philippe Couteau au Dibi, que tout le monde connaît un peu sur l'île d'Oléron, La Rochelle, voilà, parce qu'on écrit des textes ensemble. Et puis là en ce moment, bah, c'est plus le côté administratif, la promo, voilà. Et puis l'écriture aussi, finir les textes que j'ai commencé cet hiver, les recherches. Et c'est vrai qu'on a dit qu'on parlerait un peu de gastronomie, parce que je me suis un peu spécialisée dans l'histoire de la gastronomie et de la médecine, parce que les deux vont ensemble, on verra peut-être pourquoi. Et donc en fait, je compare mon métier un peu à la réduction d'une sauce. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'ingrédients au départ dans les casseroles, et puis on fait réduire pour finalement avoir une sauce très avec pas grand-chose. Il reste peut-être qu'une cuillère à soupe, mais en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, tout l'hiver, c'est l'écriture des textes.
Et vous apprenez toujours autant de choses. Finalement, plus le temps passe, plus vous apprenez encore des choses.
Et ben oui, parce qu'il suffit que je tombe sur une définition que je connais pas bien, où je me dis, tiens, je vais aller vérifier ça, c'est bizarre. Bah, plus tard qu'hier soir, je tombe sur le nom d'une plante que je ne connaissais pas. Je me dis, mais comment ça se fait, ça? Et en fait, c'est un ancien mot anglo-normand, donc du coup, j'étais partie dans l'étymologie, et je me suis couchée très tard, encore une fois, voilà.
C'est souvent comme ça, quand on met le doigt dans l'engrenage,
et
finalement. Eh bien, on se prend de passion pour tout ça. Stéphanie Romégous, c'est notre invitée ce matin. Elle est animatrice historique, donc, sur France Bleu La Rochelle. On va parler de son parcours, et aussi de gastronomie dans un instant, puisqu'on va voir Grégory Coutenceau qui va nous rejoindre avec lequel vous avez pu participer, notamment un tournage. On vous explique tout juste après Étienne Dao, Bleu comme toi.
De belles histoires et de bonnes adresses. Bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle.
Transition toute faite avec Rochefort et notre invitée Stéphanie Romégous qui est avec nous, qui est historienne et qui anime des ateliers, notamment des visites costumées qu'on va avoir l'occasion d'évoquer. Mais tout d'abord, ce lien aussi entre histoire et gastronomie, comment vous avez été amenée à vous y intéresser de plus près de cette histoire?
Alors déjà, c'est pour essayer de se rapprocher de la vie quotidienne, parce que j'ai eu une expérience de prof d'histoire qui était très théorique, et je me suis dit, il faut quand même faire autrement pour faire aimer l'histoire, et pourquoi pas regarder comment vivaient les gens. Et comment vivaient les gens, comment ils mangeaient, ce qu'ils mangeaient, quelles étaient la vaisselle qu'ils pouvaient avoir sur la table, et puis ce qu'il y avait dedans. Et je suis remontée très loin, parce que j'ai commencé par le XIIe siècle, donc le fameux siècle d'Aliénor d'Aquitaine par lequel j'ai commencé cette passion. Et puis ensuite, je suis remontée un petit peu avant, et puis un petit peu après, et puis finalement au temps préhistorique aussi. Et je voulais connaître vraiment la première recette de cuisine du monde.
Et alors?
Eh ben, je crois que j'ai trouvé, hein, tout simplement. Mais je voulais trouver l'origine aussi pour savoir à quel moment on s'est dit on va faire de la cuisine. Parce qu'avant on devait manger, bah, les chasseurs-cueilleurs, hein, on cueille des murs, voilà, on mange les affaires brutes, quoi. Et je me suis dit, mais à quel moment on a eu l'idée de mélanger? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais depuis, je suis un peu calmée, ça y est, je suis apaisée, j'ai trouvé ma réponse, en tout cas la mienne. C'est que, en fait, faire de la cuisine, c'est pas forcément pour le goût au départ, c'est uniquement pour ne pas s'intoxiquer. C'est-à-dire que quand on trouve un champignon cru et que ça fait mal au ventre, eh ben, on va le cuire pour essayer de voir si on peut pas le consommer quand même. Parce que l'homme préhistorique, ce qu'il veut, c'est consommer toute sa forêt. Il veut pas, à la saison, par exemple, du gland de chêne, se dire, bah, ça va me faire mal au ventre. Il dit, il y en a plein partout, faut que j'en mange. Donc, il va trouver le moyen de le transformer. Et c'est ça, en fait, la cuisine. C'est transformer sa nourriture pour ne pas se rendre malade et pour en s'en nourrir quand même.
Et c'est un chef que vous avez choisi de mettre à l'honneur ce matin, Grégory Coutenceau. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré, connu?
Alors, c'était à l'occasion d'un tournage pour un documentaire sur le repas du 18e siècle, hein, qu'on souhaitait faire à Rochefort, 17e, 18e, voilà. Alors, c'est vrai que Rochefort, c'est la ville de Louis XIV, donc ça tombait très bien. Et donc, l'enjeu, c'était de faire, avec un chef quand même assez reconnu, une cuisine historique. Donc, on a choisi la recette ensemble, on est tombé d'accord sur un canard, c'était un canard excellent, mais avec des modes de cuisson qui sont pas tout à fait forcément celles d'aujourd'hui, mais avec des réflexes de cuisine que Grégory avait évidemment. Alors, je ne lui ai pas donné de cours, attention, hein, mais on a travaillé ensemble, c'était assez amusant.
Bonjour Grégory Coutenceau.
Bonjour Chloé. Et
merci d'être avec nous ce matin donc sur France Bleu La Rochelle. Alors vous, est-ce que vous vous étiez intéressé justement à ce pan de l'histoire de la gastronomie? Est-ce que ça fait partie intégrante du métier de chef ou pas forcément?
Alors, moi je considère que ça fait partie quand même intégrante parce que, bon, comme le dit l'adage, je veux dire, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, je pense que c'est important d'avoir, voilà, des bases historiques, je veux dire, sur la cuisine. Alors, bien évidemment, tout ça évolue au cours des siècles et que la cuisine que l'on sert aujourd'hui n'est pas la cuisine qu'on servait du temps de Louis XIV avec ses repas à rallonge, avec ses différents services et ses différents modes de voilà de consommation. Mais c'est vrai que l'exercice était quand même très intéressant, l'échange était voilà très fructueux et on a essayé de se rapprocher au plus près, et je me rappelle, on avait travaillé un canard gras de chez Monsieur Morille, que l'on avait farci à l'intérieur, donc avec une cuisson lente. Et ensuite, donc on avait fait un service, non pas à l'assiette, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, oui. Je veux dire, au plateau, où les convives se servaient. Donc, c'était très... voilà, c'était instructif et c'était à la fois... je veux dire, assez marrant de se prêter à cet exercice.
Est-ce que ça amène à réfléchir, à se poser des questions sur sa propre cuisine d'aujourd'hui, justement, de retravailler sur ces méthodes de cuisson qui étaient très différentes à l'époque?
Alors, oui, ça, alors moi, si vous voulez, quand j'ai fait vivre à Rochefort, je me suis un petit peu basé là-dessus quand même. Parce que, effectivement, bâtiment construit et voulu par Louis XIV, oui. En particulier où je suis vivre, c'était le quai aux vivres, c'est-à-dire c'était l'endroit où était stockée la nourriture, le vin, l'eau, pour armer les bateaux avant qu'ils partent en mer. Donc, moi, j'avais trouvé ça génial de pouvoir... reprendre cet endroit-là et en faire un restaurant. C'est pour ça que au niveau du restaurant, on a voulu une cuisson au feu de bois, c'est-à-dire revenir sur une cuisson un petit peu ancestrale. Bon, même si effectivement l'outil qu'on utilise est un outil, c'est un brasero argentin. Donc, il reste quand même d'actualité, mais la méthode de cuisson au feu de bois avec différents essences d'arbres, nous apporte une connotation particulière et nous fait référence à un type de cuisson que l'on pratiquait il y a longtemps, quoi.
C'est vrai que c'est toujours plein de saveurs. Grégory Coutenceau, vous restez avec nous. On va parler aussi dans un instant de l'actualité rochefortaise dans votre secteur avec Vivre et notamment ce salon Vivre le vin que vous allez proposer d'ici un mois. Ce sera le dimanche 5 mai notamment à découvrir. Donc, Salon des Vignerons à Rochefort. On va parler de cette actualité dans un instant avec Stéphanie Roubégousse aussi qui est à nos côtés, qui est donc historienne et notre invitée. Puis on joue, on vous offre votre tablier de cuisine France Bleu La Rochelle pour vous essayer vous aussi si vous avez envie aux recettes historiques ou recettes plus contemporaines, à vous de choisir. Et un livre de cuisine aussi pour cuisiner pour les enfants de 4 à 10 ans, pour organiser leur anniversaire pour les enfants, les petits-enfants. Ça, ce sera à vous de choisir avec un budget raisonnable, gâteau, déco, jeux, maquillage, il y a tout dedans. Pour ça, il faut nous dire quel est l'ingrédient principal que l'on retrouve dans les darioles pâtisseries que l'on retrouvait plutôt donc dans l'histoire, plutôt dans au Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'était les amandes, les pistaches ou les cerises? Est-ce que c'est plutôt l'amande, la pistache ou la cerise que l'on retrouve dans les darioles? Venez tenter votre chance ce matin au 05 46 50 67 68. L'ingrédient principal que l'on retrouvait dans les darioles pâtisserie du Moyen-Âge, amande, pistache ou cerise? Alors à votre avis, 05 46 50 67 68. Bonne chance à vous.
Soyons fiers d'être charentais. Bienvenue chez vous. 10h 11h.
Il est 10h21 et on continue à échanger avec nos invités, Stéphanie Roumégousse qui est historienne et qui propose notamment des visites costumées qu'on détaillera ce matin sur France Bleu La Rochelle, et Grégory Coutenceau qui était également avec nous, puisqu'on a parlé d'un tournage que vous avez fait ensemble autour de l'histoire notamment, et l'actualité pour vous Grégory, enfin on a encore un petit peu de temps, hein, ce sera dans quelques semaines, mais c'est la bonne occasion pour en parler, puisqu'à Rochefort vous organisez donc la deuxième édition du salon Vivre le Vin, salon des vignerons. Elle est venue d'où l'idée de créer cet événement pour vous?
Alors, cette idée, elle est venue, moi je suis un fervent défenseur de notre territoire, donc produits bien évidemment, donc nourriture, hein, donc les produits de la mer, je veux dire les produits agricoles, mais sans oublier le vin, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, notre région était destinée à faire du jus, comme on disait, hein, pour faire le cognac, et que depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a de nombreux vignerons qui se sont mis à faire du vin, et à faire du très bon vin en appellation vin de pays charentais en particulier. Et puis je considérais que c'était un petit peu notre responsabilité de les mettre en avant. Donc on a décidé donc avec Julien, mon chef sommelier, de créer ce festival Vivre le Vin, qui est un salon des vignerons. Alors la particularité, c'est que à la différence d'autres salons, nous, bien sûr que les vignerons qui viennent sont invités gratuitement, ils payent pas de stand. Et pour nous, le but, c'était vraiment de créer un moment où nos clients pouvaient rencontrer tous ces vignerons, ces vigneronnes qui sont un petit peu des pépites de notre territoire.
Et vous allez organiser aussi un banquet, justement, il y aura une soirée, ça c'est une façon aussi de se plonger dans l'histoire finalement.
Bien évidemment, le vin, si vous voulez, le vin autour d'une table, c'est important. Quand vous allez dans un restaurant, je veux dire, bien évidemment, vous avez la nourriture, mais la nourriture accompagnée d'un bon vin, d'un bon nectar, alors à consommer bien sûr avec modération, c'est toujours agréable, et je trouve que c'est le pendant du repas. Donc c'est vrai qu'en fin de soirée, on propose déjà des dégustations le matin avec des huîtres et de la charcuterie, hein, pour accompagner le vin. Mais le soir, on fait un vrai banquet, une grande table conviviale, où on aura de la cuisson au bras zéro avec de la pluma de cochon ibérique. On aura également pour le déjeuner le traditionnel poulet rôti. Donc on se replonge dans des produits simples, de qualité, pour accompagner les différents vins, les différents nectars que nos vignerons vont nous emmener afin de les faire goûter.
Stéphanie Roumégousse, le vin, l'alcool a toujours une place importante dans les banquets, dans l'histoire aussi, pour accompagner les repas.
Oui, bien sûr. Alors, suivant les époques, on ne le boit pas de la même manière. Et je pense que Grégory, là, va faire des sauts au plafond, parce que c'est vrai que les Romains le buvaient un peu comme de la tisane, c'est-à-dire accompagné avec de l'eau chaude. Donc, c'est pas génial. Mais parce que le vin était pas très, très bon. Enfin, il était assez spécial, il était très épais, on laissait tout dedans. Enfin, bon. Et puis après, il y a une époque au Moyen-Âge où on l'a bu glacé, mais vraiment glacé. Hein. Donc ça faisait mal au ventre à tout le monde, mais c'était comme ça. Et toujours additionné d'eau. Et maintenant, on peut le boire pur parce qu'on a des très bons produits, évidemment.
Des bons produits qu'on... Même... Oui, allez-y.
Oui, et puis même du temps de Louis XIV, hein, je veux dire, il coupait encore le vin à l'eau.
Hein. Et oui.
Heureusement qu'on ne fait plus ça aujourd'hui, même si c'est à consommer bien sûr avec modération. En tout cas, la seconde édition donc de Vivre le Vin, ce sera le dimanche 5 mai de 10h à 21h avec des dégustations, le banquet aussi en fin de journée. Et puis on aura l'occasion aussi de vous retrouver, Grégory, à nouveau pour parler du salon de gastronomie qui aura lieu à la fin du mois de mai aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec France Bleu La Rochelle.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est autre chose, c'est vivre la mer, parce que donc la mer, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est un festival que je voulais créer depuis longtemps. Donc, on invite des chefs français et européens, donc qui ont tous rapport avec la mer, et on va proposer sur 3 jours des démonstrations de cuisine, des déjeuners à 6 mains, des soirées festives avec le DJ sur le rooftop, une sur l'Italie, une autre sur la Grèce, mais également des repas plus populaires avec une grande mouclade sur le port de Rochefort. Et donc c'est vraiment de créer des moments d'échange avec des gens passionnés par la mer. Éthique Océan est notre partenaire éthique. C'est une ONG qui vise à préserver les ressources halieutiques et préserver les espèces marines, parce qu'il y a des soucis là-dessus. Ouais. Donc on veut faire un moment convivial mais également ludique, voilà, où les gens vont pouvoir rencontrer tout un tas de chefs passionnés par leur métier, qui racontent une histoire de territoire et qui est bien sûr en rapport avec la mer. Donc c'est vrai que sur ce festival, ça va également foisonner, il va y avoir beaucoup de rencontres.
Vivre le vin et vivre la mer, en tout cas une belle actualité à Rochefort. Merci Grégory Coutenceau d'avoir été avec nous sur France Bleu La Rochelle. Et à
Merci
très vite.
Chloé.
Il est 10h27, ça continue dans un instant. Bienvenue chez vous dans les Deux-Charentes avec notre invitée Stéphanie Roumégousse, qui est historienne. On va continuer à parler forcément d'histoire et d'animation, des différents ateliers que vous proposez, des visites costumées. On est ensemble jusqu'à 11h.
10h-11h, bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle.
Et on est ravis de vous accompagner comme chaque matin dans les Deux-Charentes pour découvrir des passions, des métiers. Aujourd'hui, celui d'historienne, notamment à travers les yeux de Stéphanie Roumégousse, qui s'est passionnée notamment pour la gastronomie, mais pour un tas d'autres choses. Parce que vous nous le disiez, hein, depuis la préhistoire jusqu'à la guerre, Deuxième Guerre mondiale, tout vous passionne et vous intéresse. Comment on en vient aussi, vous en avez fait votre métier aussi en tant qu'historienne, vous avez donné des cours d'histoire, mais à franchir le pas d'aller animer comme ça, d'aller à la rencontre du public avec des confrontations plus directes et des animations costumées. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ?
Alors disons que j'avais déjà comme activité de loisir de me costumer. Alors je dis bien costume, je dis pas déguisement, hein, c'est tout à fait différent. Mais je pense que vous savez faire la différence. C'est-à-dire que la recherche du costume au plus proche de ce qu'on pouvait peut-être avoir à l'époque. Alors moi j'ai commencé par le 12e siècle dans une association pour mes loisirs, donc les week-ends de libre, eh bien on partait comme ça camper pour montrer la vie quotidienne au public. Donc ça c'était déjà une première chose. Et puis quand j'ai commencé mon métier de guide conférencière, là tout à fait classique, hein, je faisais des visites de ville, je me suis dit mais pourquoi pas leur montrer quand même quelque chose de costumé avec le discours qui va avec. Donc voilà, j'ai allié les deux ensemble en fait.
Est-ce que malgré tout il y a une approche différente quand on est costumé dans ce lien comme ça sur une visite par rapport à une conférence, enfin une visite classique?
Oui, il y a une proximité tout de suite parce que les gens s'intéressent vraiment tout de suite au visuel, au costume, ce qui permet d'en parler tout de suite et puis de rentrer dans un personnage. Alors aujourd'hui, c'est plus théâtralisé ce que je fais et au départ, c'était vraiment un peu comme un cours d'histoire mais en direct, mais c'était toujours immersif et aujourd'hui aujourd'hui c'est plus théâtralisé pour essayer de faire ressortir un personnage, mais ça commence par le costume, et c'est vrai que ça apporte une proximité, et notamment avec le jeune public qui pourrait être tout de suite barbé par un fameux cours d'histoire ou une conférence ou autre chose, et puis là finalement ça les attire tout de suite.
Vous avez combien de costumes aujourd'hui ?
Oh bah alors, je les ai pas comptés parce que il m'en faut un par époque. Mais c'est vrai que j'ai commencé par le 12e siècle, c'est une tenue assez simple, hein, c'est une robe en laine. Alors on se dit bah oui, mais la laine ça tient chaud. Mais en fait, quand on cuisine près d'un feu, il vaut mieux des matières naturelles et il vaut mieux respecter là, l'histoire, parce que sinon vous prenez feu comme une torche vivante.
Qui peut être
donc,
embêtant.
Voilà. Alors c'est vrai que je n'ai pas testé non plus, hein, mais par contre il se peut qu'il y ait des braises hein, qui puissent s'échapper du feu, et j'ai des trous dans certaines robes, mais ça n'a pas flambé. Donc c'est déjà bien. Donc la laine, le lin, le chanvre sont des matières naturelles qui résistent bien au feu.
Et comment on les conçoit ces costumes ? Est-ce que ce sont vous êtes allé chercher les matières et vous avez fait appel à vos talents de couturière ou dans vos proches ? Ou est-ce que sont des costumes tout faits qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le commerce ?
Non, on peut pas les retrouver. Enfin si, on peut les retrouver. Il faut les commander à des couturières de métier, mais qui sont des couturières historiques. Alors il y en a, hein, évidemment, vous en trouverez plein sur. Enfin pas tant que ça, à vrai dire. Il y a beaucoup de couturières, mais les couturières historiques, c'est quand même pas fréquent. Alors, il y a des époques pour lesquelles on a des patrons. Donc, moi, je suis pas couturière de métier, mais je fais mes propres costumes. Mais il y a des périodes pour lesquelles il n'y a pas de patron. Par exemple, si vous prenez une robe du Moyen-Âge, les papiers, ça n'existait pas. On vous faisait pas un plan. Et donc, il faut les faire soi-même. Alors là, c'est beaucoup d'iconographie. C'est là que mes études d'histoire de l'art m'aident beaucoup. À force d'étudier, ne serait-ce que les images, les enluminures, plus tard les tableaux, on voit la forme des vêtements. On trouve aussi dans des textes des annotations sur des marchands de tissus. Enfin, c'est vraiment une recherche de tous les instants.
Et vous êtes pointilleuse justement dans les détails pour que ça soit vraiment le plus conforme possible.
Oui, alors visuellement maintenant, je fais toujours très attention. Maintenant, je fais aussi du côté pratique, parce que comme je suis toute seule pour me costumer, j'ai pas de petit personnel comme on avait à l'époque. Donc, par exemple, j'évite de porter un corset, surtout en plein été, en pleine chaleur, quand je dois tenir 2 heures, voire plus, au soleil. Donc, et puis pour pouvoir m'exprimer aussi, sinon je peux pas respirer.
Ce qui peut être un peu compliqué.
Bah, parce que les femmes, à certaines époques, étaient habituées à porter le corset, même si c'était inconfortable, c'était une certaine habitude de vie. Donc là, j'essaye de faire dans le pratique, mais je veux que le visuel et les matériaux soient toujours évidemment au plus proche.
Il y a toujours des petits trucs et astuces forcément pour que ça ressemble visuellement, tout ayant l'impression. On va continuer à parler d'histoire ce matin sur France Bleu La Rochelle avec Stéphanie Roumégous qui est à nos côtés. Et jusqu'à 11h, on parlera des différentes animations aussi que vous allez proposer. Il y a les vacances qui arrivent et dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va voir ce qui nous attend avec vous si on a envie de participer comme ça à une visite costumée.
Bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle.
Bienvenue chez vous dans les Deux-Charentes, ça continue avec notre invitée Stéphanie Roumégous qui est historienne et qui vous propose donc des visites costumées. Est-ce que les premières visites costumées, vous aviez déjà votre axe pour choisir la période, l'époque que vous alliez, dont vous alliez parler, c'était une évidence ?
Oui, alors ce n'était pas le Moyen-Âge, et peut-être ça va vous surprendre, parce que le Moyen-Âge c'était vraiment mon truc, sauf qu'à l'époque j'étais guide sur l'Hermione, oui, à Rochefort, et donc je trouvais qu'on ne parlait pas assez d'histoire. Alors ça paraît curieux, mais c'est vrai que les visiteurs, dans les visites de journée, posaient des questions sur les matériaux, la construction d'aujourd'hui, les problèmes techniques. Et moi, je trouvais que l'histoire, on la mettait trop de côté. Donc, j'avais inventé les premières visites du soir, qui s'appelaient les visites à la lanterne, où j'avais inventé un personnage qui aurait très bien pu exister, qui était inspiré du réel. C'est-à-dire que c'était un écrivain de la marine. Et les écrivains de la marine, c'est pas du tout des écrivains de romans. Au contraire, c'était des gens qui étaient dans les bureaux. C'était assez sombre et assez ingrat comme métier, parce que c'était un peu les photocopieuses de l'époque.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils recopiaient des registres en plusieurs exemplaires pour garder des archives. Et je trouvais que c'était intéressant, parce que ces personnages-là étaient au courant de tout. Tous les courriers qui passaient par le port, que ça vienne de Lafayette, de Louis XVI, les choses secrètes, tout était vraiment répertorié dedans. Et ça me permettait comme ça d'avoir un premier personnage réel pour dérouler cette histoire. Donc on circulait dans le bateau avec une lanterne, donc les visiteurs pouvaient emporter aussi. Et donc c'était la nuit, c'était le soir, on rentrait dans des recoins secrets. À l'époque, on pouvait descendre encore dans la cave. spatiale, donc c'était assez magique. Et puis je représentais des documents d'archives aussi, parce que ça c'est mon côté guide conférencière qui ressort. Et même si j'étais en costume et que je théâtralisais un peu le truc, eh bien il y avait des vrais documents d'archives, des cartes anciennes, et vraiment on était plongé dans l'univers. Et de temps en temps il y avait le silence parce que on prenait conscience de la vie des matelots à cette époque-là. Et enfin voilà, c'était ma première visite costumée.
Et ensuite, du coup, quand vous êtes lancé aussi à votre compte...
Après, j'ai enchaîné. Alors, la Tour de Brou, qui est pas très loin de Rochefort aussi, a été un de mes fiefs. Et j'y suis encore... ça fait maintenant 12 ans que je travaille comme ça, avec ces gens-là. Et c'est vrai que la Tour de Brou, là, pour le coup, on est en plein 12e siècle, où là, je faisais vraiment de la cuisine au feu de bois, à la fois quelques visites du soir, des choses comme ça. Et là, je fais encore de la cuisine là-bas, le matin, l'été.
Souvent, et qu'est-ce qu'on cuisine alors quand on vient vous voir?
Alors, quand je peux faire un feu de bois, quand j'ai l'autorisation, quand il n'y a pas de sécheresse, etc., quand on a pris toutes les autorisations nécessaires, eh bien, on peut cuisiner très simplement avec de la farine et de l'eau. Et en fait, mon but, c'est ça aussi, c'est de montrer qu'on pouvait faire beaucoup avec pas grand-chose. Et que le premier pain, il n'y avait pas de levure, c'est quasiment un pain préhistorique. Hein, c'est-à-dire qu'on met de la farine et de l'eau, on fait des galettes, et ensuite, on met ça directement sur la braise. Et j'aime autant vous dire que c'est délicieux, vraiment. Et là, les gens redécouvrent le vrai goût du feu de bois. Alors oui, on mange un petit peu de charbon, mais ça, c'est pas non plus très très grave. Ça donne du goût, évidemment.
Est-ce que dans vos recherches dans l'histoire de la gastronomie, il y a des choses qui vous ont influencé pour votre cuisine de tous les jours, que vous avez repris aussi?
Oui, par exemple, la cuisine avec du pain sec, parce qu'on a toujours une petite tranche de pain dont on sait pas quoi faire, et machinalement, on veut pas la jeter. On la donne aux petits oiseaux, c'est bien, mais on peut très bien la cuisiner. Et là, ça va être justement l'objet d'un de mes prochains ateliers pendant les vacances de Pâques, de montrer qu'avec du pain sec, on peut faire des choses très très bonnes. Et ça, c'est un peu du recyclage, c'est de la cuisine anti-gaspi. Par exemple, pour les gâteaux, au Moyen-Âge, on a des recettes avec les jaunes d'œufs d'un côté, et puis un deuxième gâteau avec que le blanc. Donc ça permet comme ça d'équilibrer, de ne pas jeter. Et ça, c'est toujours ce que j'essaye d'appliquer dans la vie quotidienne.
On se rend compte qu'on n'a rien inventé aujourd'hui et que il y a des choses qui existent depuis la nuit des temps.
Et voilà, l'anti-gaspillage et puis aussi la diététique. Ça, c'est important. C'est pour ça que je fais toujours le parallèle entre la médecine et la cuisine. C'est pour ça que je fais l'histoire des deux, d'ailleurs. Parce que on essaye toujours de se nourrir depuis Hippocrate, depuis l'Antiquité, en essayant de préserver sa santé, d'équilibrer entre les fruits, les légumes, etc. Et on partait même du principe qu'il y avait des humeurs. Alors, c'est pas la bonne ou la mauvaise humeur, mais que chaque partie de notre corps correspond à un élément naturel, l'eau, la terre, le feu, etc. Et que donc, il fallait se nourrir pour équilibrer. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les médecines chinoises, indiennes, donc c'est assez curieux de le remettre un peu sur le devant de la scène aujourd'hui, mais ça paraît tellement logique. Et c'est pour ça que ça va peut-être vous intéresser pour nos traditions d'aujourd'hui, c'est que le fameux melon au pinot qu'on sert chez nous sur les tables, c'est une tradition ancestrale. C'est-à-dire que le melon étant froid et humide, il faut l'équilibrer avec du vin qui va réchauffer un peu tout ça et peut-être faciliter une digestion. Enfin, c'est ce qu'on pensait à l'époque, on s'aperçoit que c'est très très bon. Déjà.
Bah oui, le goût ça compte aussi.
Et voilà.
On va continuer à parler, à échanger avec notre invitée Stéphanie Roumégousse, qui est donc historienne et qui vous propose des visites costumées. On parlera des prochaines visites aussi qui arrivent, en vous donnant quelques dates si vous voulez y prendre part. On continue à en parler sur France Bleu La Rochelle dans moins de 3 minutes.
Les deux Charentes se dévoilent autrement dans Bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle.
10h45, on continue à échanger avec notre invitée Stéphanie Roumégousse, qui vous propose notamment donc des visites costumées, des ateliers. On va parler directement des prochains qui arrivent. Qu'est-ce qui nous attend, Stéphanie, et dans quelle ambiance vous allez nous plonger pour les prochains événements?
Alors là, c'est des nouveaux personnages. J'ai refait le costume également. Alors je me suis fait prêter une coiffe parce que ça va être vraiment le costume traditionnel de l'île d'Oléron qu'on trouvait au 19e siècle. Alors il y a eu la quichenote que tout le monde voit. Visualise à peu près cette espèce de coiffe un peu de tube, mais c'est pas celle-ci que je vais utiliser, parce que ça c'était une coiffe de travail qu'on portait dans les champs et aussi pour aller faire de l'ostréiculture, pour éviter de prendre trop le soleil. Mais là c'est une coiffe vraiment particulière qui est assez impressionnante, qui va par-dessus une autre coiffe aussi, qui est l'une des plus grandes j'allais dire de toute l'Atlantique. Alors c'est pas la bigoudaine, c'est pas celle qui monte très très haut, mais par contre ça fait une espèce de triangle, ça s'appelle le ballon. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est un chapeau de soleil qu'on m'a gentiment prêté à la maison paysanne de Grand Village, où il y a un groupe, le groupe des Déjouqués, qui est un groupe folklorique, mais qui a beaucoup de mémoire sur tout ce qui est historique. Et donc là, je vais plonger les gens donc dans le 19e Oléronais, et on va aller au Moulin de Labré, qui a été restauré l'année dernière et inauguré. Et là, on va faire des activités justement autour du pain. Donc, je propose un atelier familial, donc pour les petits, les grands, et on va voir comment utiliser le pain sec. Et vous allez voir, c'est délicieux, vraiment.
Ce sera quand, ça ?
Alors ça, ce sera le 17 avril. Donc pendant les vacances, le matin à 10h30, comme ça, il y a la petite fin de matinée là qui va pouvoir être apaisée par ce qu'on va cuisiner, parce qu'on cuisine vraiment ensemble. Donc chacun aura son matériel et le couteau, tout ça, tout est à disposition. Donc on prend une vingtaine de personnes à peu près, et ensuite on déguste ensemble évidemment ce que l'on fait. Et puis ensuite le lendemain, le 18 avril, je serai à la maison paysanne justement de Grand Village, et là on fera de la cuisine autour de l'ortie. Donc ça, c'est assez surprenant, parce que l'ortie, ben, c'est encore considéré comme une mauvaise herbe. Mais là, on va faire un repas complet à base d'ortie. Et j'aime autant vous dire qu'après, vous allez avoir plein de vitamines, parce que c'est l'une des plantes qui regroupe le plus de vitamines et de minéraux.
Ah oui.
Et également des protéines. Donc c'est assez rare dans les plantes, et c'est bien pour de le notifier. Donc on peut faire des tas de cuisine avec. Alors je vous laisse la surprise des plats, parce que je vais pas tout dévoiler, mais là encore, ça va être très très bien, et c'est très familial. Donc on cuisine ensemble, ça permet de raconter l'histoire aussi tout en cuisinant, et c'est ça qui m'intéresse. Et puis ensuite, la deuxième semaine de vacances, eh bien là on ira à Pont, l'hôpital des pèlerins, avec le jardin des plantes médicinales, où là je me transformerai en herboriste. Et le 23 avril, on fera un atelier autour des plantes médicinales, pour apprendre à les mélanger soi-même sans trop faire d'erreurs. Et puis la fameuse détox de printemps, pour pas y aller trop fort quand même,
parce que, ça peut avoir des conséquences aussi.
Voilà, les magazines des fois poussent un peu là-dessus, mais il y a des choses à respecter. Donc là, ça me permet de leur expliquer aussi comment on voyait le corps au Moyen-Âge, comment se soigner avec les plantes, et puis voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui, parce qu'il faut pas reprendre les recettes, que ce soit la cuisine ou la médecine, telles quelles, parce qu'il y a des choses un peu étranges quand même dans l'histoire à ne pas reproduire, qui seraient presque dangereuses. Et voilà. Et puis après, le lendemain, le 24 avril, je serai au FA. Alors là, on fera des cosmétiques, parce que je fais aussi donc médecine, cosmétique, et là on réalisera un parfum de l'Antiquité. Donc je vous ferai sentir les parfums de la Bible, parce qu'on en trouve dans les lignes de la Bible, hein. Donc les recherches, vous voyez, sont très variées.
Génial.
C'est pas seulement dans les archives, c'est dans tout. Donc même dans la Bible, il y a des parfums, et il y a des senteurs qu'on peut retrouver aujourd'hui qui sont assez rares. Donc là, ça permet de découvrir, et puis chacun repart avec son petit flacon, donc c'est assez intéressant. Et puis le lendemain, un grand événement, le 25 avril, l'ouverture de la maison de Marie Bon, la sœur de Pierre Loti, où là ce sera vraiment une visite théâtralisée pure. Alors là, il n'y aura pas d'atelier, mais sans doute la surprise de découvrir la sœur de Pierre Loti, qui habitait une jolie maison à Saint-Porchère, où il y a plein de souvenirs. Et voilà. Et alors, autre événement, mais là cette fois-ci on bascule sur le mois de mai, donc ce sera le vendredi 10 mai. Là, j'écris un texte avec mon collègue Philippe Couteau des Biloutes, sur l'histoire du port de la Cotinière, et notamment sur l'histoire de la conserverie de sardines qu'il y avait sur le port. Et donc on va jouer encore une fois un couple de pêcheurs assez particulier qui va faire beaucoup rire, je pense, parce que il faut de l'humour aussi dans ces visites, et dans l'histoire il y en a de l'humour, hein. Surtout avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit mais comment ils pouvaient vivre comme ça, et voilà, on trouve toujours de quoi les faire rire.
Et de quoi bien s'amuser. De belles visites qui nous attendent. On va parler un petit peu de musique. Est-ce que la musique a une place importante dans votre vie, Stéphanie ?
Oui, bien sûr. Alors, notamment quand j'écris, ou suivant la période où je vais écrire, eh bien, j'aime bien m'entourer de musique de cette période-là. Donc, si j'écris plus 17, 18e siècle, ce sera la musique baroque, par exemple. Voilà. Mais j'aime aussi la musique contemporaine, bien entendu.
Et bien, vous avez choisi d'écouter le groupe L'Impératrice et un morceau Peur des filles. Pourquoi ce choix en particulier ?
Eh bien, la peur des filles... On peut avoir peur des filles, ça c'est vrai, mais il faut mieux essayer de les comprendre, à mon avis. C'est ce que j'essaye de faire avec mes personnages, mais ça c'était un petit clin d'œil humoristique à toutes ces femmes assez fortes de l'histoire que j'ai pu interpréter, comme Aliénor d'Aquitaine. Mais sous leur fragilité apparente, c'est vrai qu'elles peuvent diriger le monde, ça c'est sûr, méfiez-vous.
Et donc du coup, c'est très bien retranscrit dans ce titre qui s'appelle donc Peur des filles, ça signait le groupe L'Impératrice, et c'est le choix de notre invitée Stéphanie Romégous, qui est historienne et qui est à nos côtés, donc jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle. Très belle matinée à vous.
mentir sans réfléchir, faut toujours peser ses mots. Désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou. Comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que dans Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire.
Et cette chanson Peur des filles, le choix de notre invitée Stéphanie Romégousse, historienne qui est donc à nos côtés ce matin sur France Bleu La Rochelle. On a évoqué les prochains ateliers pour les vacances de Pâques qui arrivent donc d'ici quelques jours. Il y aura des choses aussi cet été, Stéphanie, vous allez proposer forcément des visites au cœur. Vous nous avez dit que c'était le cœur de la saison pour vous.
Et même qu'il y aura une grosse surprise, mais je ne le dévoile pas tout de suite. Je reviendrai peut-être vous en parler brièvement, parce que c'est une nouvelle histoire que je vais faire ressortir de terre, et là je pèse mes mots, et donc je pense que ça va non seulement intéresser le grand public mais aussi quelques historiens, je pense. Donc j'ai passé l'hiver à farfouiller dans les archives, les images, les vieilles cartes et tout, et là je vais vous proposer quelque chose alors qui va être aussi amusant, mais vous allez voir. Donc je laisse traîner un peu le mystère, et puis
ça pique notre curiosité,
voilà,
quand même.
Et puis un nouveau personnage aussi pour la Tour de Brou. Donc là, je vais me replonger dans l'histoire de l'abbesse de Saintes, qui était très puissante au Moyen-Âge et qui voulait beaucoup d'argent pour son abbaye. Et donc, comme Brou faisait partie des territoires qui lui donnaient de l'argent, et elle a eu des petits problèmes avec le seigneur de Brou, avec le bornage des marais. Donc là, je me suis replongée aussi dans l'histoire, et aussi sur les dernières fouilles archéologiques qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu un chantier de fouilles pendant plusieurs années, qui nous ont livré beaucoup d'informations. Donc je suis en train de travailler là-dessus en ce moment pour cet été. Donc on n'a pas encore la date définitive, mais ce sera dans le courant du mois de juillet. Ce sera une visite du soir. Donc les visites du soir, c'est toujours sympathique, parce que c'est souvent à la lueur des torches, des bougies, ça donne une ambiance particulière.
Oui, ça doit être bien sympa. On demande toujours à nos invités un coin de balade. Vous aimez aller vous promener, la région est riche, hein, dans nos deux Charentes, il y a de quoi faire. Vous avez réussi à faire un choix.
Alors c'était compliqué, hein. J'hésitais entre la terre, la mer, la forêt. Bon, c'était compliqué, mais il y a un lieu vraiment où j'aime beaucoup y aller, non seulement pour travailler, mais vraiment c'est un ressourcement, et je pense que pour les visiteurs ça le sera aussi, c'est l'hôpital des pèlerins de Pont, qui se trouve en bord de la Seugne. Et alors si vous vadrouillez un peu dans Pont, qui est une jolie ville médiévale, il y a le donjon bien sûr, mais après vous avez des escaliers qui descendent vers la rivière, et là vous avez des abords de rivière où vous croyez vraiment ailleurs. On ne pense pas qu'on est en Charente-Maritime, et c'est ombragé quand il fait chaud, il y a des petits ponts partout, parce que la ville de Pont, ben, ça vient de ce mot-là, évidemment. Mais c'est vraiment très beau.
Ben une belle idée de balade. Pour retrouver toutes les infos sur les visites, où est-ce qu'on peut se rendre sur Internet?
Alors, vous allez voir le site Les Temps d'Aénor, donc les L-E-S, temps comme le temps qui passe, D-Aénor, et non pas Aliénor, mais ça a un lien évidemment, puisque Aénor était le prénom de la maman d'Aliénor d'Aquitaine.
Donc l'étang d'Aénor pour retrouver toutes les visites proposées par Stéphanie Roumégousse pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de notre pays et de nos deux Charentes. Merci Stéphanie d'être venue nous voir.
Merci Chloé, à bientôt.
À très vite, et cette émission est à retrouver bien sûr en podcast sur l'application ICI.